Le Magéco, en partenariat avec le Journal des entreprises.
Et bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver donc pour ce nouveau épisode du Magéco, mercredi 20 février, en compagnie, comme chaque semaine, d'Olivier Amard du Journal des entreprises. Bonjour Olivier.
Bonjour Bastien.
On démarre ce magazine avec votre invité de la semaine, Arnaud Darsonval, gérant associé de la ferme Sainte-Marthe à Loire-Authion.
Oui, tout à fait. La ferme de Sainte-Marthe qui s'est implantée dans de nouveaux locaux en août 2022, qui participe pour la première fois à Made in Angers, le rendez-vous du tourisme industriel, vous l'avez dit, qui se déroule du 26 février au 22 mars. Bonjour Arnaud Darsonval.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors, vous êtes donc dirigeant associé de la ferme de Sainte-Marthe. Qu'est-ce que c'est la ferme de Sainte-Marthe ? C'est pas tout à fait une ferme, hein, comme on l'entend.
C'est une ferme semencière. En effet, on produit des graines en bio, des graines reproductibles, donc non hybrides F1, autant en potagère qu'en fleurs, et on les distribue donc par correspondance sur Internet, catalogue. On est présent aussi un peu en jardinerie et on a une boutique physique depuis un an maintenant.
Vous produisez tout ce que vous commercialisez ?
Alors, on produit deux tiers de notre gamme. Aujourd'hui, on a plus de 1000 variétés à notre catalogue. Donc, une gamme très large et très diversifiée. Et le dernier tiers, on travaille avec d'autres collègues artisans semenciers qui travaillent souvent très bien également et qui ont d'autres souches, d'autres variétés. Et c'est intéressant pour nous de travailler également avec eux parce qu'on a besoin d'isolement. On peut pas tout produire sur notre terrain.
Vous avez aussi des fournisseurs à l'étranger, hein.
Voilà, exactement. Typiquement en Suisse, en Hollande, sur cette partie, négoce avec ses producteurs. Ils travaillent avec les mêmes convictions que nous et ont des collections intéressantes, parfois adaptées à leur pays. Et c'est intéressant pour nous d'essayer de les tester et potentiellement de les intégrer à notre gamme.
Alors vous dites, vous avez à peu près un millier de variétés différentes. Vous parlez de collections. Il y a des graines qui ont du succès, il y en a d'autres qui doivent se vendre moins, sans doute, ou de manière plus confidentielle. Est-ce que vous les vendez quand même? Et puis, est-ce que ça veut dire que vous avez aussi un rôle de conservation, de préservation?
Alors, exactement. C'est clair que sur les 1000 variétés, on vend très bien potentiellement les 50, 100 premières. Les 900 qui suivent sont des petites ventes. C'est vraiment de la petite épicerie qu'on fait. Et par contre, on ne raisonne pas en tant que gestionnaire sur ces sujets-là. On est vraiment à essayer de les conserver et continuer à les produire, continuer de les vendre. Et on a un rôle de mainteneur sur ces variétés. Et si sur 150 variétés, on est aujourd'hui les seuls producteurs, les seuls à produire ces graines. Et donc, si on arrête de les produire, il y a un risque qu'elles disparaissent.
Ce sont des variétés pour beaucoup anciennes. Est-ce qu'on en retrouve de nouvelles encore ?
Alors, elles ont souvent plus de 50 ans, les variétés qu'on produit. On n'est pas créateur, on n'hybride pas par nous-mêmes, même si c'est un sujet naturel, l'hybridation potentiellement, où on peut le diriger. Mais on ne crée pas des variétés. Il y en a tellement à dormir dans des frigos qu'il est assez facile potentiellement de retrouver une souche dans des frigos près de l'INRA ou d'autres instituts. Par contre, c'est très long de les reproduire et de les proposer à nouveau. Mais c'est ce qu'on fait régulièrement par ailleurs.
Alors, vous parliez de 1000 à peu près variétés. Parmi elles, il y a déjà une centaine de variétés de tomates, je crois.
Voilà, on a plus de 160 variétés de tomates. Donc, autant vous dire que autant de goûts que de couleurs, que de formes différentes, mais aussi des intérêts en termes de culture de la plante, parce qu'il y a des variétés qui sont précoces, qui vont faire des fruits tôt, et des variétés qui sont plus tardives, qui permettent parfois d'étaler les récoltes dans votre potager.
Vous commercialisez principalement des graines de légumes. Vous voulez aussi vous orienter vers la fleur. Pour quelle raison ?
Alors, on a toujours eu un petit peu de fleurs à notre gamme et aujourd'hui, la production de graines de fleurs en bio est un sujet qui n'existe très peu. Donc, et nous, notre souhait est de toujours cultiver de manière la plus respectueuse de l'environnement avec la nature et non contre. Et c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui aussi des fleurs à notre gamme et qu'on enrichit notre disponible avec ces variétés.
Vous dites la fleur bio, ça existe très peu. Pourquoi ? C'est quoi les freins ?
Mais aujourd'hui, une fleur, potentiellement, ça se mange pas. Alors, il y a des fleurs qui se mangent, mais aujourd'hui, le jardinier ou le consommateur est plus sensible au bio à partir du moment où ça se mange. Donc après, comment c'est produit, d'où vient une graine, l'intérêt du bio pour une graine et l'intérêt du bio pour une graine de fleur, on part de plus loin pour l'expliquer à tous. Pourtant, voilà, une graine de fleur se produit comme une graine de légumes.
Mais le consommateur est moins sensible à ça, pour
voilà,
la fleur.
Exactement.
Alors, vous êtes installé à Loire-Authion, sur la route qui va d'Angers à Saumur. Vous avez un nouveau site depuis un an et demi, bientôt. Vous avez aussi un site de production au Pont-de-Cé. Pourquoi vous avez choisi de construire comme ça un site très visible sur cette route très passagère à côté d'Angers.
Alors, on produit sur ce terrain depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, on est déjà installé, mais on était un peu caché. Le terrain fait 11 hectares, on s'est mis un peu au fond du terrain. Et puis, le travail de semencier nécessite du calme, de l'isolement, de la rigueur. Donc, pas de visite possible à cette époque-là. Et on avait un autre site d'expédition de nos sachets qui était un peu plus loin que nos bureaux. Et là, il y a un an et demi maintenant, on a voulu regrouper nos activités sur le même site, donc le site de production. Et à cette occasion-là, ça nous a permis aussi d'ouvrir une boutique physique pour accueillir nos clients physiquement, les rencontrer, aller à la rencontre de nos clients et pas passer uniquement par Internet et téléphone.
Parce que la majorité de votre commercialisation, elle se fait par Internet ?
Voilà, aujourd'hui on est majoritairement distribué via notre site internet, mais aussi on est présent, mais sur une partie de la gamme un peu restreinte en jardinerie.
Et dans ce nouveau site que vous avez créé il y a un an et demi, vous ne commercialisez pas que des graines, hein, vous voulez aller de la graine jusqu'à l'assiette, entre guillemets.
Exactement, le premier sujet était en tout cas de montrer toute notre diversité, donc nos 1000 variétés sont présentées en boutique, ça c'était l'origine, la genèse du projet. Mais les graines, on en vend 2-3 mois dans l'année. Et donc l'idée était de faire vivre tout un projet toute une année. Donc de la graine à l'assiette, il y avait une logique donc, de proposer notre diversité en graines, en plants, en légumes. Et aujourd'hui, avec tout un rayon, épicerie, vrac, voilà, on rencontre des fournisseurs et des producteurs dans notre région, autant en vin qu'en bière. Et d'autres produits qui méritent d'être présentés en boutique, qui permettent de vivre toute l'année.
Vous dites que vous commercialisez principalement sur Internet. Votre clientèle, elle est uniquement française ou pas ?
À 98% française, oui.
Alors, vous avez parlé de sachets. Quand on expédie un sachet assez petit, ça veut dire que vous avez un système d'expédition qui doit être super performant parce que vous avez quand même un... C'est pas comme qu'on exporte ou quand on envoie une voiture ou un bien de consommation, quoi.
Ça fait beaucoup, beaucoup de petites commandes. Donc, c'est plutôt les petits lutins qui travaillent toute l'année, et notamment 3 mois dans l'année. Donc, pendant cette période, toute l'équipe aide à envoyer les commandes pour que les clients reçoivent leurs graines à temps. Donc, c'est autour de 70 000 commandes par an qui sont envoyées. Et essentiellement, 60% pendant 3 mois. Donc, en effet, il y a une petite période de rush, mais c'est... Voilà, papier, crayon, et on met les petites graines, les petits sachets dans des enveloppes et ça part par courrier.
Ce sont des professionnels ou des particuliers ?
Beaucoup de particuliers, mais qui, avec la collection présentée, forcément, on se tourne vers un public de collectionneurs. Les graines, c'est pas toujours très accessible de prime abord. Donc, on explique comment faire germer une graine, mais ça, c'est assez vite compris. Et puis, on a aussi des professionnels, donc des petits maraîchers, entre guillemets, des petites structures qui veulent diversifier leurs produits sur les marchés. Donc, s'ils veulent des variétés de tomates différentes, ils peuvent les proposer. Mais on a aussi de belles signatures, comme des restaurateurs étoilés qui viennent chez nous chercher des choses différentes. Et donc, s'ils partent pas de la graine, ils vont jamais trouver les plants et encore moins les légumes. Donc, ils sont eux-mêmes régulièrement jardiniers. Donc, je peux en citer comme Alexandre Couillon, Alain Passard et la famille Brasse dans l'Aubrac, entre autres.
Qui viennent chercher chez vous.
Qui s'approvisionnent chez nous des graines, mais il leur reste encore beaucoup de travail dans le potager.
Arnaud d'Arsonval, vous l'aviez mentionné pendant le Covid, il y avait eu un boom vraiment de l'activité. Ça s'était ralenti les années qui ont suivi. On en est où aujourd'hui ? Comment ça va au niveau rentabilité de l'économie, du modèle économique ?
C'est vrai, Bastien, que ce boom a été parfois pas très raisonné, pour pas mal de sujets. Ce qui est un peu délicat, ce qui nous a un peu déstabilisé en termes de stock et parce que les graines, elles tombent pas du ciel, voilà. On peut mettre 2 ans à produire sur des bises annuelles des graines. Donc, refaire notre stock et puis savoir quel sera le marché, c'était l'incertitude qu'on avait après Covid. On revient sur des choses qu'on a connues et donc avant Covid, qui correspondent tout nettement mieux à notre taille d'entreprise et à ce qu'on souhaite. Par ailleurs, on préfère plusieurs petites fermes semencières comme la nôtre que des grandes entreprises qui vont parfois orienter les variétés.
On l'a dit en début d'émission, vous avez choisi cette année de vous ouvrir à la visite en vous inscrivant dans Made in Angers. Vous faites partie des nouveautés cette année. C'est quelque chose que vous faites déjà, vous ouvrir au public. Pourquoi vous faites ça et puis qu'est-ce que vous montrez au public ?
Clairement, on a une petite notoriété dans le domaine du de la semence et du végétal, mais nationalement. On savait pas que on était originaire d'Angers. Et l'ouverture de notre grainerie épicerie l'année dernière nous a permis de nous ouvrir à un territoire qu'on affectionne particulièrement, puisque avec mon associé Dominique Velay, on est né à Angers. Donc l'idée de pouvoir accueillir le public avec la boutique, ça nous a permis de le faire. Et on a commencé à faire des visites l'année dernière, une par mois, où on visite justement de la graine à l'assiette, enfin jusqu'à la boutique, comment on fait une graine. Et on a sur notre site, on a la chance de tout faire. Donc, quand vous trouvez un sachet de la ferme de Sainte-Marthe, quel que soit l'endroit en France, il est passé par notre entreprise à Angers, à Brun-sur-Lothion, très précisément. Et on est très content de participer à Made in Angers pour essayer de montrer ce qui se passe au mois de février. Mais en fait, tous les mois, c'est différent. Donc c'est pour ça qu'on a des visites chaque mois depuis l'année dernière.
Le public répond ?
Ça a été très vite pour Made in Angers. En effet, c'est parti assez vite.
Et dans l'année ?
Et dans l'année également. Et ils sont toujours surpris de tout le travail qu'il y a, minutieux et rigoureux, pour arriver et aboutir à un petit sachet de graines et les graines qui germent.
C'était important pour vous d'ouvrir au public comme ça. Il y a plein d'entreprises qui le font aujourd'hui. Les métiers sont souvent cachés. C'était important pour vous aussi de faire découvrir votre métier, vos métiers, parce qu'il y a plein de métiers, j'imagine.
Clairement, on a besoin de pédagogie, d'expliquer d'où vient une graine, pourquoi une graine bio, l'intérêt, notre impact sur l'environnement quand on consomme en conscience. Donc montrer tout le travail qu'il y a derrière. Et comme je disais, parfois il faut plus de 2 ans donc pour produire une graine de carotte. Donc si vous la produisez en respectant l'environnement, que vous voyez le tri, le séchage, le conditionnement, les tests de germination et le travail avant d'arriver à un petit sachet, il est besoin de l'expliquer.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question à quelques jours de l'ouverture quand même du Salon de l'agriculture, sur votre regard, sur ce qui se passe actuellement, la crise agricole, la mise en pause du plan éco-phyto. Comment vous appréhendez tout ça ?
Alors, c'est clair que ça nous déstabilise beaucoup. On est assez déçus du retard qui pourrait être pris sur l'enjeu de l'impact de notre agriculture, d'une certaine agriculture sur l'environnement. Après, on est surtout pas donneur de leçons. Chacun doit y aller à son rythme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avancer et aller dans le sens de la planète, parce qu'on a une seule planète.
Arnaud d'Arsonval, merci beaucoup.
Merci à vous. On rappelle que pour Made in Angers, les visites sont quasi complètes. Les inscriptions sont complètes. Merci encore, Arnaud d'Arsonval, d'avoir été notre invité.
Merci, Olivier.
Visite complète pour la ferme de Sainte-Marthe. Il y a encore d'autres entreprises qu'on peut aller visiter sur le site de Made in Angers. Vous avez toutes les informations nécessaires. Merci à vous. On reste dans l'actualité éco de l'Anjou. Olivier, quelques informations en bref, en commençant par des nouvelles de Gliocure.
Oui, tout à fait. C'est une société angevine qui est spécialisée dans le développement de médicaments, notamment pour lutter contre le glioblastome. C'est une forme de tumeur du cerveau. Gliocure veut lever 420 000 euros par une opération de financement participatif. Avec cette somme, la start-up créée en 2016 veut couvrir l'intégralité de travaux de R&D qui vont lui permettre avant fin 2024 de négocier un accord industriel sur son candidat médicament contre ce glioblastome, ou alternativement de sécuriser la suite de son développement réglementaire et clinique qui est nécessaire avec des investisseurs institutionnels.
Des informations également sur le CIVER ?
Oui, le CIVER, c'est l'unité de valorisation énergétique de l'AS, au nord du Maine-et-Loire, qui est gérée par le CIVER, qui est un syndicat intercommunal. Elle peut traiter jusqu'à 120 000 tonnes de déchets ménagers par an. Elle va connaître un vaste programme de travaux avec la réhabilitation de l'existant et l'augmentation de ses capacités pour un investissement total de 140 millions d'euros. Le site va passer en 2028-2029 à une capacité supplémentaire de 85 000 tonnes de déchets ménagers traités chaque année. Ça fera près de 200 000 tonnes par an. Et ce sera pour recevoir, en plus de ce qui est actuellement traité sur le site, les déchets de l'agglomération d'Angers, d'une partie de celle de Tours et de la communauté de communes de Sablé dans la Sarthe.
Et puis il y a un nouveau directeur à l'ESEP.
Oui, tout à fait, Christophe Bougeau. Il deviendra à partir du 4 mars prochain le directeur général de l'ESEP, l'école d'ingénieurs basée à Saint-Barthélemy d'Anjou. Il succédera à Christophe Rouvray, qui était en poste depuis août 2014.
Merci Olivier pour ces précisions. On poursuit notre magazine avec les débats de l'écho.
Les débats de l'écho, RCF Anjou.